On peut mille fois échapper au joli mois de mai, mais on peut pas mille fois échapper à YouTube Hercule.
Il est interdit de salarier un homme.
Le joli mois de mai.
Le joli mois de mai.
Démission à la moustache du capitaine.
C'est le joli mois de mai.
Je démarre l'enregistrement, il démarre une moto.
Oui, c'est juste pour faire chier, on est à Nice.
Putain, j'en peux plus de cette ville.
Hein. Bah, l'environnement du Mouet, tu sais, ils sont en souffrance. Hein.
Le joli Mouet de Mouet.
Hé, patron, prends ça dans ta trompe.
Le joli Mouet de Mouet.
Démission unilatérale, démission sans préavis, démission sans putain de pointage au chômage.
Le joli mois de mai.
Eh oui, vous aurez reconnu le local. On a repris, c'est la rentrée de la lutte des classes.
On n'en veut plus de vos virements de radin, on n'en veut pas de votre putain de smic à la con.
C'est pas faire un jiggle de fou le joli mois de mai.
On n'en veut plus de vos miettes, on ira cultiver la terre, ou bouffer des racines, ou crever sous la lune.
Nous poulimes des mailles.
Au ce qu'on fera, peu importe, et surtout, on vous emmerde. Votre salaire de pièce jaune, votre bulletin d'abonnement à la misère, vous pouvez vous le rentrer dans le coccyx. Le brut, le net, tu peux t'en faire un paquet, tu te l'emballes, tu te le roules en cône, tu te le fumes avec ton comptable et tout le conseil de masturbation.
Le joli mois de mouet.
Le joli mois de mouet, c'est reparti.
Voilà, c'est reparti, les nouvelles aventures de YouTube Hercule. Moi, dans 2 jours, je suis à la retraite, les cocos.
Aïe, aïe, aïe.
1er octobre 2022, bim, dans ta gueule, quoi.
Et en plus, ce soir, c'est sur la valeur travail, eh ben, dis donc.
Eh oui, on va voir s'il avale bien, d'ailleurs.
T'as de feignasse que t'es, va.
Ouais, eh oui, ben, je ne vais pas me changer à mon âge. Attends, 165 trimestres validés, quoi. Quand même, quoi.
Eh, c'est quelqu'un de la famille qui valide, ou quoi?
Oui, oui, voilà, c'est ma mère. Et comme elle a Alzheimer, elle en valide un tous les 2 jours, quoi. Voilà, ça va être mon avenir.
Eh ben dis donc.
Comme quoi, les vieux ont un avenir, il suffit juste qu'ils touchent la retraite.
Une belle soirée en perspective, je pense que tu vas bien te faire charrier sur le thème du jour.
Tu crois?
Ouais, je pense.
C'est quoi le thème du jour?
La valeur travail.
Ouais, ben c'est bien, ça arrive pile poil pour moi, il me reste 2 jours pour en parler, après je ferme ma gueule.
Démission. Vous êtes pas encore parti?
Le joli mois de mouet sur YouTube Hercule.
L'économie, c'est un truc qui s'enlaille, un truc qui nous rabaisse. Un truc qui nous salit, non, on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous, on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner, comme ça, gratos, ça vous faire boule. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume des enquêtes.
C'est le joli mois de mai.
C'est le joli mois de mai.
Le joli mois de mouet.
Le joli mois de mouet.
Le joli mois de mouet.
C'est pas faire un jiggle de fou, le joli mois de mouet.
Eh ben, ils sont pas pressés, Vincent.
Non.
Nous, ça fait déjà une demi-heure qu'on attend.
De toute façon, l'heure est un concept capitaliste.
Ah ouais?
Et d'ailleurs, est-ce que tu as vu ma montre? Elle avance par bond de 4 secondes.
Ah mais oui. Elle fait des petites pauses, elle contemple la seconde et après hop.
Elle les rattrape.
Qu'est-ce qu'on fait? On les appelle ou...
Oui, on va les appeler.
Allez. Allez, tas de feignants. Allez, on commence. La valeur travail, mon cul, ouais, tu m'étonnes.
Le travail n'a aucune valeur. Surtout un jour de grève, ouais.
Parce que les auditeurs et les auditrices, ils attendent là, hein, depuis tout à l'heure. Hein.
Alors, on va leur passer un morceau de musique, n'est-ce pas? Pink Martini. Ah. Je ne veux pas travailler. J'étais fait pour faire de la radio.
Top musique.
Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis, je fume. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Eh bien voilà, on reprend les soirées causerie apéro concert qui donnent l'acronyme CAC. Sans le 40, on est le 29 septembre au local Nice en commun au port. Et voilà, il y a une foule, comme toutes les fois où on fait ces soirées-là, qui est immense. le mois numéro 31 de septembre 2022 sur le travail, avec un subtil jeu de mots en une qui s'appelle « La valeur travail » en deux mots. Donc voilà, on va parler un peu de cette thématique-là qui est très actuelle puisque nos camarades des partis institutionnels de gauche s'échinent à dire n'importe quoi. Donc peut-être que ce soir, on va aussi dire des conneries, mais peut-être avec un pas de côté quand même sur le travail. Et ensuite, on aura Edwige alias Bohème qui fera du slam et qui va arriver d'une minute à l'autre. Alors, on a un article de Jérémy qui s'appelle « Pendant le travail, la vie continue, histoire d'une fiction sociale ». On a un article qui raconte comment l'un de nos rédacteurs est passé de journaliste à pilote de vélo-taxi parce que le capital l'a rappelé à l'ordre. On a un entretien avec Corinne Morel-Darleux sur la question des désertions, des bifurcations dont on a beaucoup parlé aussi, là, notamment avec cette vidéo qui a un peu buzzé des étudiants d'AgroParisTech. On a un article sur la protection de l'enfance, le travail social, et qui est aussi un des secteurs qui connaît ce qu'on appelle la grande démission, hein, qui est un phénomène qui est parti des États-Unis et qui arrive aussi en Europe, et qui ne concerne pas que les cadres, qui concerne quand même pas mal de secteurs, de gens qui quittent leur boulot parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous avez le droit de vous manifester à un moment donné. Hein. Vous avez le droit de dire aussi « on s'en fout, on boit des coups hein, », c'est possible aussi. Hein.
Non, mais celui de Jérémy, là.
Ouais, allez, bon. Ça fera une bonne, bonne entrée en matière sur ce qu'est le travail.
Pendant le travail, la vie continue. Histoire d'une fiction sociale. Petite réflexion à compléter. Voilà une tentative bien improbable de penser simplement le travail au travers du temps. Notion polysémique et protéiforme, il semblerait qu'on puisse dire tout et n'importe quoi à propos du travail. Alors pourquoi pas mouais ? Origine d'une fiction sociale. Le travail est une des fictions sociales. Lire Le Testament du banquier anarchiste, les plus improbables de l'histoire, si on y réfléchit un peu. Étymologiquement issu de tripalium en latin, selon le linguiste Alain Rey, il s'agissait de nommer soit un instrument de torture pour les esclaves récalcitrants, soit un outil cadrant le travail de labour des animaux. Évoluant au fil du temps, aujourd'hui, le travail se définit contractuellement de gré à gré, c'est-à-dire en bonne entente réciproque, comme un échange. Je te donne mes compétences, qui se matérialiseront par un échange de services et ou de biens matériels, contre de l'argent. L'instrument de torture millénaire est devenu petit à petit le lien social au travers duquel un individu existe dans le groupe. Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Se traduit par « quel est ton travail ?» Le marginal qui ne travaille pas se retrouve sans emploi, qui ne sert à rien donc aux yeux de la société, tandis que l'ascension sociale ne peut exister qu'au travers de son prisme, et la souveraineté sur une chose, y compris une nation, n'existerait que parce qu'on y travaille dur. La pénibilité et les efforts liés au travail seraient ainsi mathématiquement récompensés par une sorte de reconnaissance automatique et proportionnelle si on a la naïveté d'y croire, car la France appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme l'affirmait sans sourciller un ex-petit président français que nous tâcherons de ne pas nommer. Très beau jeu de mots, tâcherons. Le travail, une sorte de sadomasochisme. Petit retour en arrière. Moyen-Âge. Des campagnes soumises aux diktats mystico-obscurantistes de nobles consanguins, et les villes, sortes d'îlots de liberté dans lesquels les proto-bourgeois préparent la prochaine dialectique ou domination historique, celle du capitalisme qui verra s'affronter les nouvelles classes sociales en cours de création et de définition. On peaufine petit à petit, au gré des événements et des luttes sociales, les contours de ce nouveau terrain d'affrontement. Le capital s'accumule en gigantesques fortunes. Le pouvoir bascule du territoire et du divin vers l'argent roi. Au détour du XVe siècle, les structures matérielles de la société européenne sont prêtes à enclencher une nouvelle et fascinante fiction sociale, celle du salariat, et à travers elle, celle du travail, selon sa variante capitaliste. Il s'agit dans le cadre du droit du travail d'un accord créant un lien de subordination officielle entre le travailleur et son patron, que cela soit au travers d'une prestation de service ou d'une tâche dans le cadre d'une activité salariale. Un lien de subordination avec conscience et consentement. émanation d'une tentative d'être libre de son temps, dans les premières heures de la bourgeoisie médiévale, le travail moderne capitaliste est désormais encadré de manière coercitive. Semaine de 35 heures, 5 semaines de congés payés, retraite à 65 ans, etc. Et avec le sourire, y compris à coup d'anxiolytique si besoin. Le travail, une équation simple. P égale K fois W, P pour production, K pour capital, W pour travail. Voilà donc, les amis, une situation fort passionnante. Le travail capitaliste est une chose incroyable. Les capitalistes sont des entités rationnelles qui n'agissent qu'en fonction de leur intérêt. Le produit, c'est-à-dire une multiplication de la force de travail par la quantité de capital, permet d'obtenir une quantité de biens ou de services à vendre. Au travers de cette multiplication magique, les capitalistes nous forcent à employer notre temps à produire ce qui est intéressant pour eux, des marchandises dont la vente engendrera du profit, que ce soit des canons ou des paquets de chips, du travail qui participe à la reproduction de l'ordre social présent par le contrôle, la surveillance, la répression, l'encadrement. À lire, balade sans emploi. Que cela soit une évidence ou pas, les effroyables tentatives d'associer le travail à la liberté au travers de l'ignoble slogan trônant à l'entrée des camps de concentration « Arbeit macht frei », traduction « Le travail rend libre », ou le célèbre « Travail, famille, patrie » du régime fasciste de Vichy, du loser historique que fut le naftalineux maréchal Pétain, et encore plus récemment, la promesse funambuliste de Macron, en forme de boule puante, de renommer l'administration censée soutenir dans leur démarche les exclus du fameux monde du travail, de Pôle emploi à France Travail, sonne comme une injonction, quelle que soit l'époque ou les régimes, toute discipline est horodatée au travers de la valeur travail. Perdre sa vie à la gagner, gagner sa vie à la perdre. Si le travail est une fiction sociale, particulièrement honteuse, c'est parce que notamment aucun animal ne travaille. Non, la fourmi n'est pas besogneuse, n'en déplaise à La Fontaine. Elle est programmée génétiquement, instinctivement et probablement par adaptation, mais pas structurellement, socialement. Je me souviens avoir lu, il y a quelques années, que les paysans et paysannes du Moyen-Âge travaillaient en moyenne 14 jours par mois, par exemple. Souvenons-nous aussi que pour la noblesse du Moyen-Âge, le travail était pour les serfs. Rappelons-nous enfin que nous avons obtenu le dimanche chômé parce qu'il fallait libérer de l'espace-temps pour une autre fiction sociale que celle du travail, celle de prier le dimanche matin et d'avaler le corps du Christ au travers d'un morceau de pain rassis. En 1996, j'avais 17 ans à l'époque, et lors d'une balade chez certains disquaires underground de Nice, est arrivé dans mon lecteur CD l'album « Dubik and the Pucks » à écouter, et notamment ce titre dont le refrain était « Perdre toute sa vie à la gagner, gagner sa vie à la perdre ». J'étais en section économique et par conséquent abreuvée de certitudes capitalistes. Pourtant, immédiatement, cette chanson changea ma vie. Et pour cause, elle remettait en question dans mon cerveau propagandé le sacro-saint travail comme unique et ultime liant social. Et ensuite, « Je ne travaille pas, je vis ». Aujourd'hui, je ne travaille plus depuis 27 ans. J'étais à bloc tellement engagé, le gars, que depuis si longtemps, il est... Donc aujourd'hui, je ne travaille plus depuis 7 ans. Au-delà de la marginalité dans laquelle cela me met, j'en éprouve une certaine fierté. Au travers de mes activités, j'agis sur mon réel, que j'influence en toute puissance, puisque c'est moi qui décide le plus souvent possible de ce que je fais et quand je le fais. Croyez-vous que j'aurais eu la chance d'écrire dans un journal anarchiste et dubitatif s'il m'avait fallu focaliser mon existence sur toutes mes dépendances matérielles en ne comptant que sur la rémunération de mon travail pour ce faire ? Probablement pas. Les marxistes parlent d'aliénation du salariat. Au-delà de cela, le manque d'imaginaire induit par le travail vecteur d'intégration sociale est une sorte de lobotomie permanente capable de réduire, voire de détruire les meilleures intentions des plus motivés d'entre nous. Fatigue, lassitude, soumission, adaptation, puis intégration, assimilation, adoration. Voilà le schéma que nous risquons, le côté obscur de la force en quelque sorte. au contraire de l'utopie douce, naïve du film La Belle Verte, dans laquelle travailler est une blague et aux antipodes de la dystopie du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Au-delà du travail, des missions générales. Alors parions que le futur sera nôtre, anarchiste, et qu'on se souviendra de notre époque formidable avec gentillesse et perplexité, lorsqu'on se demandera comment fut-il possible qu'ils ne se rendirent pas compte qu'il s'agissait d'une nouvelle forme d'esclavage, dans laquelle la taille de la plantation, les possibilités d'activité ainsi que ses infrastructures de divertissement n'avaient en fait qu'été agrandies, multipliées, un peu magiquement certes, mais sans que pour autant la situation eût bien changé depuis l'époque des esclaves, à qui les Romains faisaient porter le tripalium pour les maintenir prisonniers. Un peu comme le smartphone et le capitalisme technologique d'aujourd'hui, en quelque sorte. Aujourd'hui, le capitalisme tue, saccage et détruit des territoires, cultures minoritaires et tout ce qui ne lui correspond pas. Le climat part en sucette, la nature est en stress time et nous regardons faire les yeux ébahis et le sourire placide. Nous râlons et nous analysons certes, mais sans la radicalité qui nous permettrait d'entamer la prochaine époque historique, que nous souhaitons bien évidemment de tous nos voeux anarchistes. Comme nous aimons le faire, en nous inspirant de nos camarades, nous vous proposons par exemple, plutôt que de vouloir réformer le capitalisme en faisant la grève, de démissionner. Alors démission générale, car nous avons le devoir de désobéir à tous ces marchands de bétail. Nous l'écrivions déjà dans notre numéro spécial « Le monde après », « Le monde d'après », Mouet numéro 7. Selon Mouet, la chaîne de responsabilité du petit travailleur qui obéit au grand chef qui commande a permis au précédent totalitarisme d'exister. Aujourd'hui, notre dictature se nomme capitalisme et son existence majoritaire est liée au travail. Aujourd'hui aussi, la banalité du mal, notion chère à la philosophe allemande Hannah Arendt, est en marche au travers du système capitaliste dans lequel on est tous et toutes un rouage plus ou moins conscient. Les fonctionnaires du capitalisme sont les travailleurs et les travailleuses capitalistes. Alors démission générale et sans préavis à la moustache du capitaine, comme le chantaient les Villars.
Bravo!
Bravo pour cet article. Merci.
Oh là 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 là!
Merci de me faire lire des choses comme ça. Alors Eric, toi qui ne travailles pas depuis 27 ans, j'aimerais te donner le micro.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un petit peu votre point de vue, parce qu'on sait très bien qu'au Mouet, il y a une réalité économique qui n'est pas extraordinaire, ou du moins qui est extraordinaire. Comment vous pourriez concevoir d'être en fin de compte rémunéré pour ce que vous faites? Sur quel modèle économique?
Alors, pour moi, le modèle économique, ça serait 0-1. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de travailler pour vivre. Pour moi, le modèle économique vers lequel on doit tendre, c'est celui du revenu universel pour tous et toutes, et celui où tu choisis de travailler et tu choisis de faire quelque chose. Pas de travailler, mais de faire quelque chose et de partager quelque chose. Ça, c'est l'utopie à très long terme. À plus court terme, le modèle économique, ben, ça serait celui que les journaux indépendants et toute la presse indépendante bénéficient d'une partie des subventions qui nourrissent actuellement les journaux des milliardaires.
Et pour ce que tu disais, on en parlait hier du coup sur le, parce qu'il y a une des camarades de Mouet qui disait ouais mais non, enfin en tant qu'anarchiste on pourra pas accepter le fait qu'on soit salarié, enfin c'est même ne serait-ce que notre propre journal. Et avec Edwin quand même, nous on serait assez chaud pour être par exemple, enfin c'est salarié de notre journal, mais sachant que ce serait un cadre qui serait extrêmement différent, je sais même pas si on pourrait encore appeler ça du salariat en fait, parce qu'on serait, ce serait de l'argent qui viendrait de nous en fait, enfin c'est et on n'aurait pas de patron. Voilà, enfin, c'est nous salariés à Mouet, ce serait une paye raisonnable pour pouvoir manger, vivre, picoler, fumer et tout ce qui s'ensuit, et enfin de quoi vivre bien quoi, et pour nourrir le chat, et mais sans aucune forme de domination qui serait, on n'aurait pas d'horaire précis à faire, on n'aurait pas de cadre contraignant à respecter, on serait juste en fait la seule contrainte qu'on aurait, avec beaucoup de guillemets, ce serait que le journal continue à exister. Donc ce serait, pour moi, je serais ravi de faire ça, et ce serait pas, pour moi, ce serait pas du salariat, ce serait juste mon journal, le journal qu'on a avec nos potes, qui nous permettrait de vivre et de faire en sorte qu'on puisse continuer à faire cette chose qui est une sorte de service public, parce que le travail de journaliste, enfin, c'est un truc qu'on dit souvent dans la presse libre, c'est que voilà, enfin, c'est le journalisme, c'est un travail culturel, le service public, ça doit exister.
Je parlais pas automatiquement du salariat. En plus, sur le salariat, ça serait intéressant à l'occasion d'avoir un débat sur le salariat, parce qu'il y a des gens qui sont sincères et qui défendent l'idée du salariat. Il y avait une première version qui était une version utopique, comment gagner entre guillemets sa vie en ayant une activité sans être dans une logique de travail. Là, moi, quand je parlais, c'était pour l'avenir concret et j'allais dire à court terme du mouet, quoi. Comment arriver à mettre ça en place? Alors, il y a l'idée de subvention, il y a l'idée de partenariat avec d'autres médias alternatifs.
Bah, en fait, l'idée, c'est de poursuivre ce qu'on fait depuis 3 ans, c'est-à-dire continuer de notre côté à produire du contenu, donc à faire le journal, à remplir les 24 pages, à faire la maquette. Et ensuite, le nerf de la guerre, c'est réussir à atterrir entre les mains de nouveaux lecteurs et de nouvelles lectrices, c'est-à-dire réussir à se faire connaître dans le brouhaha actuel. Il y a plusieurs possibilités. Depuis 3 ans, bah, on a le site internet pour se faire connaître, on a un blog sur Mediapart, on a organisé divers événements, donc petit à petit, Moué est mieux connu. Nous, on a trouvé un rythme de croisière. Ce qui nous permettrait d'en vivre, c'est d'avoir plus d'abonnés, d'avoir plus de points de diffusion.
C'est pas la question qu'on s'est posée quand on a dit on va faire un journal il y a bientôt 3 ans de ça. On s'est posé la question de comment on va faire un journal et comment on va financer l'impression, la diffusion. Si on devait, dans le monde actuel, s'orienter vers un modèle, il me semble que ça serait le modèle des Scop. C'est-à-dire une société coopérative où chacun, chacune est décisionnaire, où il n'y a pas de patron, où il n'y a pas de chef, et où tout est fait en commun, et où les revenus sont partagés à parts égales entre tout le monde.
On est un peu dans la confusion. Jérémy, ton article il est très intéressant, mais il est un peu dans la confusion, d'après moi. Et même toute la discussion qu'on a là maintenant, elle est dans la confusion, donc je voudrais essayer de lever cette confusion, enfin du moins apporter mon éclairage pour lever cette confusion. C'est que... Là, d'après ce que tu dis, tu vois, sortir un journal comme Le Mouet, c'est beaucoup de travail. C'est un énorme travail. Et c'est un travail qui n'est pas aliénant, ni subordonné à une quelconque force supérieure qui vous donnerait des ordres. C'est vous qui décidez de faire ce travail. Donc tout ça pour dire qu'il y a une différence entre, d'après moi, très importante, entre le travail et l'emploi. L'emploi, c'est ce que... dans l'article, qui est souvent appelé travail, c'est-à-dire un travail rémunéré. Mais par exemple, quelqu'un qui bine son jardin pour planter 3 pieds de tomates, il travaille. Un pépé qui va chercher son petit-fils à l'école, il travaille. Mais il n'est pas payé pour ça. Il y a toutes sortes de travail. Un musicien qui travaille son instrument tous les jours pour être au niveau, il travaille. Par contre, le jour où le musicien il va jouer quelque part et qu'il est payé pour ça, là, il est en situation d'emploi. Différencier le mot travail, qui n'est pas forcément négatif, d'après moi, du mot emploi, qui n'est pas forcément non plus négatif, mais qui est la situation de quelqu'un qui travaille et qui est payé pour ça. Et ensuite, au sein de l'emploi, il y a aussi une confusion. Il y a beaucoup d'emplois qui sont aliénants, où on est obligé d'obéir à un patron qui fait chier, où on est obligé de faire des choses très difficiles, très fatigantes, très dégradantes, etc., pour gagner 3 sous. Ça, d'accord. Mais il y a aussi une autre partie de l'emploi. Par exemple, vous, si vous arriviez à vous rémunérer pour votre travail que vous faites, qui est énorme pour Le Mouet, ça serait génial, quoi. Et vous seriez d'une manière employée dans l'histoire du Mouet, quoi. Donc voilà, je voulais lever cette confusion qui est quand même importante parce que, par exemple, pour un retraité aussi, les retraités abattent un travail énorme dans la société. Ils sont dans les associations. Celui qui tient la buvette lors d'une fête de l'association, il travaille. Il n'est pas payé, il fait ça bénévolement, mais il travaille.
Pour répondre à plusieurs choses qui ont été dites, c'est vrai que la sémantique, elle est importante. Je me souviens, il faudrait définir du coup ce que c'est le travail. Est-ce que c'est une activité contraignante? C'est un peu ce que tu disais, toute activité contraignante est du travail. Moi, je me souviens des Zadis quand il disait que non, on ne travaille pas, on œuvre. Bon, voilà, c'était une autre manière de penser la chose et du coup de la penser collectivement aussi. Sur la question du salaire à vie, alors on dit toujours oui, mais si on a le salaire à vie, en fait on fera plus les tâches contraignantes justement pour la société. Mais bon, ça aussi, ça se décide collectivement de qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour que la société tourne. On a besoin de soins, on a besoin de tâches un peu comme l'intenu d'un foyer dont on peut pas se départir. Et Lordon dit une chose où il a raison là-dessus, c'est qu'il dit de toute façon les humains font des choses tout le temps. C'est-à-dire que personne n'est jamais vraiment oisif. Et c'est une utopie assez réaliste, en fait, de se dire que la valeur qu'on produit, elle pourrait être redistribuée pour qu'on n'ait plus, justement, à faire ces tâches aliénantes. Concernant le mouet, est-ce que ça s'appelle toujours salariat quand on n'a plus de patron ? Donc, ouais, bien sûr, essayer de vivre de ça, parce que, trouve un travail qui te plaît, et tu n'auras plus jamais à travailler... De ta vie, hein. C'est un peu comme ça qu'on le vit nous aussi. C'est justement, il y a pas ce côté très contraignant quand on fait le mouet aussi, même si effectivement ça demande beaucoup de temps, mais on s'éclate aussi à le faire, quoi. Donc je pense que quand même la contrainte quand on parle du travail, elle est assez importante comme une tâche, comme une corvée, en fait, quoi.
Oui, je m'étais posé une question par rapport à ce que tu dis à la fin dans l'article, si j'ai tout compris en lisant. Ou quelque part, tu encourages un peu à cet élan qu'il y a de la grande démission, là, un petit peu. Je me demande si tout le monde peut se permettre ça, en fait, tu vois. Si tout le monde peut se permettre de dire du jour au lendemain, ouais, c'est vrai, allez, je me casse. Je suis pas sûre que... Enfin, voilà, j'ai pas trop suivi. Je sais que ça s'est passé beaucoup aux États-Unis, je crois, tout ça, puis que ça vient un peu après dans les autres pays. Je sais pas, du coup, la sociologie des gens qui ont démissionné. Du coup, voilà. Mais j'ai comme aussi l'idée qu'une grande partie de ces gens qui ont démissionné, ben finalement, ils ont dû aller se retrouver un autre boulot. Effectivement, c'est intéressant cette idée, mais je suis pas sûre. Enfin, je m'interroge. Voilà, déjà, si tout le monde peut se saisir de ça. Et...
Je tenais juste à rappeler que le chapeau, c'est-à-dire l'annonce de cet article, dit « Petite réflexion à compléter. Voilà une tentative bien improbable de penser simplement le travail ». Au travers du temps. C'est une machine qui avale des ressources humaines, donc c'est notre énergie vitale. Je suis pas certain, en fait, que ça soit vraiment des choix individuels totalement faits en plénitude, en fait. Je sais pas à quel moment une des personnes, en fait, qui vit dans notre société peut vraiment prendre le temps de se dire « Non, mais en fait, moi, je vais pas travailler ». L'emploi, je trouve ça un peu dégradant parce que on emploie des objets, en fait. Enfin, c'est un usage de la chose, quoi, et on n'est pas des choses. Concernant, en fait, la grande démission là aux États-Unis, c'est plutôt, en fait, des jeunes de la high-tech. Au niveau horaire, on n'est pas très loin du SMIC, en fait, hein. Mais ça leur est pas suffisant, en fait. Ils démissionnent quand même massivement parce que ils se retrouvent face à des écrans à longueur de journée. Ça les gonfle. Avec des systèmes hyper compliqués. Moi, j'ai fait ça pendant 15 ans. Donc, avant d'arrêter de travailler, j'étais informaticien. Et c'est à la fois déshumanisant, à la fois tu participes à un modèle de société qui est abject, qui nous transforme tous en extension des machines, petit à petit, hein. Et aussi qui est ultra stressant. Ça, c'est pas un détail, c'est que derrière les manipulations que tu fais sur un outil qui a l'air simple, il y a des conséquences qui peuvent être gigantesques. Tu peux changer la vie de millions de personnes si tu as bugué un algorithme ou si tu es un trader, faire perdre tous les sous des retraités, des caisses de pompiers en Californie. Enfin, il y a des histoires incroyables. Donc le stress est tellement grand et puis la solitude immense que au bout d'un moment, en fait, cette activité n'a plus de sens, quoi. Donc ils ont démissionné massivement. Je pense que c'est pas pour arrêter de travailler, parce que l'argent étant absolument nécessaire à subvenir à nos conditions matérielles d'existence, manger, avoir un toit et de dignité, et s'habiller, et avoir un peu de loisirs, et être une personne sociale, on a besoin d'argent. Tant que toutes ces choses-là seront pas gratuites ou accessibles très facilement, on devra travailler pour avoir de l'argent pour remplir ces cases-là. Mais peut-être que enfin, personnellement, pour le pratiquer depuis donc 7 ans, il y a 15 000 systèmes D à notre époque, ce que Murray Bookchin appelait la post-abondance, c'est-à-dire qu'on surproduit de tout. Il y a, mais de tout, même des logements, en fait, il y a de tout en trop. Donc si on utilise simplement, en fait, cette surproduction, on peut être très nombreux et très nombreuses à arrêter en fait de consacrer notre énergie vitale à avoir de l'argent pour pouvoir vivre et recommencer dans un moment un peu nébuleux parce que c'est super angoissant socialement en fait de pas pouvoir répondre à cette question. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Mais petit à petit, les désirs ils émergent et on peut aboutir à un journal comme Mouet au bout d'un certain nombre d'années de désirs émergents qui se concrétisent et puis en fait. Ouais, tu te retrouves avec des envies concrètes. C'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour avoir pour se nourrir socialement, en fait.
On est parti sur la valeur travail parce que c'est le mantra absolu de notre président et de ses amis, de certaines personnes qui préfèrent la gauche du travail à la gauche des allocs. Un des arguments qui est très souvent opposé à nos utopies, c'est « oui, mais qui va ramasser la merde ?» Parce que très souvent, c'est ça aussi qu'il y a derrière cette idée de la valeur travail, c'est-à-dire qu'il te faut un travail qui ait de la valeur. Il faut que tu aies un travail valorisant. Et quand tu fréquentes et que tu organises et que tu vis des événements autogérés, auto-organisés, eh ben, d'un coup, tu t'aperçois que nettoyer les chiottes, c'est finalement, c'est pas dégradant, ça fait partie, et ça fait partie du vivre ensemble aussi. Nos travails, pour la plupart, ils n'ont aucun sens relationnel. On est employé ici ou là, on sait pas pour qui, on sait à peine par qui, on sait à peine à quoi on sert. Eh ben, quand tu organises les assises, et que tu as décidé et qu'on a fait des assemblées générales pour se partager le travail, les tâches à faire, eh ben, tu vas nettoyer les chiottes et tu sais pourquoi tu les nettoies et tu sais quel est le projet derrière et tu sais même pour qui tu les nettoies. Et du coup, ça change complètement la vision que tu vas avoir de la tâche physique, chronophage, pas toujours agréable à faire. Travailler, comme tu disais, un musicien qui travaille son instrument, il sait pourquoi, il sait pour qui. Ben voilà, on veut ça, on veut ce travail-là et on ne veut pas qu'on nous dise la valeur travail comme une espèce de mantra magique.
Juste rapidement pour la question de salaire à vie, il faut savoir, si vous êtes sur Internet, vous allez pouvoir trouver deux. Ben, en fait, le salaire à vie est expérimenté, à ma connaissance, pas mal de fois, mais que j'ai en tête deux fois, une fois au Canada et une fois en Afrique. Et mais il s'avère que du coup, toutes les tâches quotidiennes qu'il faut pour la collectivité sont absolument faites. Voilà, les poubelles sont ramassées. Ça n'a absolument en aucune façon interféré sur le fait que voilà, c'est pas avec salaire à vie. Tous les gens se sont dit, bah, du coup, je ramasserai pas les poubelles parce que merde. Non, c'est les gens, ils ont envie de vivre dans un cadre sain en fait. Ils ont pas envie que les merdes s'accumulent. Donc si ça range de façon collective et intelligente pour faire en sorte que les déchets soient ramenés et que tout se passe bien. Donc ça marche. Au niveau pratique, ça marche.
Oui, moi j'ai la chance d'être musicien, donc je suis vraiment particulier, c'est pour ça que j'ai cet éclairage. Donc je travaille quotidiennement, mon instrument, je travaille parce que je donne des coups de fil pour trouver des concerts, et parfois je suis payé pour travailler, c'est quand je vais faire un concert, je suis payé. Donc je suis très regardant sur le fait d'être bien payé quand je fais un concert, d'être déclaré, parce qu'il y a aussi une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est des cotisations sociales, qui sont quand même un système révolutionnaire phénoménal. C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre en place un système où chacun paye en proportion de ce qu'il gagne. Chacun finance une caisse qui est solidaire. Par exemple, s'il y a une fête qui est organisée par le Mouet, pour soutenir le Mouet, je vous proposerai plusieurs choses. Soit je viens jouer gratuitement. On ne parle pas de sous, rien du tout. Zéro franc, zéro centime. La meilleure solution, ça serait que je vienne jouer, que vous me payiez en déclarant mon salaire pour participer aux cotisations sociales et que je vous reverse mon salaire. Ça, c'est le système le plus réglo. Après, il y a le système débrouille, bout de ficelle, c'est vous me donnez un billet au black. Et ça, j'aime pas du tout. Mais tout ça, c'est lié à l'histoire du travail. Hein. C'est pas une élucubration là, dont je parle. C'est tous les enjeux du travail. S'accomplir dans la vie, parce que est-ce que quelqu'un ici serait d'accord pour rester toute sa vie à rien foutre du tout? Mais justement, il y a une arnaque dans cette histoire valeur-travail. Je finis. Et je veux dire, il faut se méfier de ça. C'est qu'on nous met dans la tête qu'il faut en chier, il faut que ça soit dur, il faut se lever tôt, il faut, tu vois, et tout ça. Non, c'est pas. On peut très bien travailler énormément et se faire beaucoup plaisir, quoi.
Non, sur l'oisiveté qui nourrit le travail, Moi, je suis peintre, donc on a des problématiques un petit peu communes. Et en fait, il y a un besoin de respiration et de des fois de rien faire. J'ai un peu la tendance hyperactive à faire trop et trop de choses et tout. Et en fait, je réalise les moments où je lâche complètement, où je fais plus rien, ça redonne tout un boost de nouvelles idées, de plein de choses. Ça permet de redécanter un petit peu tout. Donc, ce truc, cette espèce de mythe de travail à tout craint et de souffrance et tout. Je pense que c'est vraiment un mythe dans lequel on a été éduqué par nos parents et eux les leurs. Quoi. Et c'est quelque chose, je pense, à casser complètement. Refilosopher sur des valeurs où le travail permet aussi des zones de respiration, quoi, qui sont incluses dedans, en fait.
Je trouve ça intéressant que de mettre en avant de ne pas travailler, en fait, pour la simple et bonne raison, effectivement. Je pense que ça va être aux antipodes, ce que je vais dire, hein, mais on est dans un système où, malheureusement, on nous oblige aujourd'hui à rentrer dans un certain moule et pour pouvoir, justement, gagner sa vie, en fait. Peu de gens aiment être contraints, et moi le premier, par des restrictions, que ce soit horaires, que ce soit des tâches ingrates ou des choses qu'on n'a pas envie de faire. Avoir le choix de faire ce qu'on aime et trouver un travail qui te plaît, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. C'est réalisable, mais je pense qu'il y a une quête personnelle sur tous les actes qu'on va mener. Et c'est un travail que chacun doit faire afin de ne pas travailler, en fait.
On ne peut pas non plus tout à fait conclure cette conversation en ayant l'air d'être des affreux bobos qui peuvent se permettre le loisir de ne pas travailler parce qu'ils profitent de l'héritage de leurs parents. Non, mais ce n'est pas notre cas. Mais bon, voilà, disons-le tout de suite, en fait, ce n'est pas notre cas. En fait, on est un certain nombre ici à être carrément précaires et on n'est pas des riches héritiers ni des riches héritières. Et du coup, en fait, c'est un choix aussi d'être dans la galère, mais par conviction politique. Mon père, qui était artiste, rigolait quand on lui demandait s'il travaillait. Il disait non, je crée. Par ailleurs, je tiens à dire qu'effectivement, si tu as un crédit sur le dos, tu ne peux pas arrêter de travailler. Il y a plein de... En fait, la démission générale, elle n'est pas possible pour tout le monde actuellement. Mais elle se construit et elle peut être par palier. Ce que je dis, en fait, quand j'associe le travailleur capitaliste au fonctionnaire, c'est le point Goldwyn du régime nazi, c'est que le capitalisme est une affreuse chose, en fait. Et ça détruit littéralement toute forme de vie. À un moment donné, la question va devoir se poser, quelle est notre radicalité ? Est-ce que on est prêt à diminuer notre niveau de confort et sauver la planète ? Ou pas.
Ben c'est la pause alors.
Qu'est-ce qu'on met comme musique alors ?
On met Henri Salvador.
Le travail, c'est la santé.
Allez, d'accord. À toi, Henri.
En fait, la prochaine chanson, on a essayé de faire un vrai tube de merde pour les grosses radios à la con.
plus peur de dire tout haut que les chômeurs ils sont feignants. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents de pas être à leur place. Et puis tous les matins, ils prennent tous leur bagnole. Et du coup à cause d'eux, y'a la guerre en Irak. Oh, à part les gens qui bossent. Oh, ils ont vraiment rien contre foutre. Oh, à part les gens qui bossent. Oh, franchement y'a pas de quoi la ramener.
Bon, combien là? Oh putain les mecs, eh, on a fait 2 minutes 4 et le format c'est 2.30, 2.40. Eh, faut qu'on y retourne, non? Ok? Allez, 3, 4.
Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils sont pas épanouis. Oh, eh, allez on se lâche. Oh, ils sont pires que les nazis. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, eh, ils sont pires que les nazis, c'est des américains. Oh. Stop!
Eh hey, putain, eh hey, 2 minutes 52 les mecs.
Je crois que ça va être reparti. Hein. Edwin, je te remets le micro, je te fais chevalier du micro.
Eh bien, re-bienvenue aux 257 000 personnes selon les organisateurs à cette soirée mouée. Après une longue pause club, donc on voulait repartir sur une lecture. Bon, on a feuilleté un peu, on s'est dit que peut-être l'entretien avec Corinne Morel-Darleux pour poursuivre un peu la discussion, notamment sur la désertion et la désertion féconde, puisque quitter son travail c'est bien, mais le quitter pour faire quelque chose d'intéressant c'est encore mieux. Et peut-être donc lire cet entretien et voir un peu comment on pourrait tous abandonner le salariat et voir ce qu'on pourrait faire ensuite.
Alors, question. Bonjour, la Corinne Morel-Darleux. Je sais qu'elle est extrêmement sympathique. C'est une personne extrêmement sympathique et qui fait des excellents romans que je vous encourage à lire. Elle a fait beaucoup de romans pour enfants, pour jeunesse en tous les cas, mais qui sont aussi lisibles pour les adultes et qui sont très bien. Notamment Là où le feu est l'ours, qui est super bien. Et son dernier roman, La Sauvagière, qui est paru récemment aux éditions d'Alva, est très bien aussi. C'est parti. Militante éco-socialiste, graines, fleurs et épines. C'est comme ça qu'elle se définit. Corinne Morel-Darleux est également essayiste et autrice, entre autres, de Là où le feu est l'ours, aux éditions Libertalia. Et puis de son Vercors en flammes, qu'elle habite dans le Vercors depuis pas mal d'années. Cramponnée au ciel à suivre les fumées et le vol des hélicoptères, elle me parle de bifurcation, ce qu'elle appelle ce moment singulier où le cerveau rencontre les points, et de voie de sortie libertaire du salariat capitaliste. Donc, question. Dans « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », paru chez Libertalia en juin 2019, tu évoques le fait de renoncer à un poste qui, quoique bien payé, est nuisible écologiquement et socialement. Soit ce qu'on appelle en ce moment, depuis la séquence des diplômés d'agrotech refusant de travailler pour le complexe agro-industriel, la bifurcation. Pourrais-tu revenir sur ce thème, sur ce qu'il a représenté pour toi, et sur ce qu'il représente à tes yeux aujourd'hui à un niveau plus global ?
Jusqu'à la trentaine, j'ai enchaîné bac, prépa, subdeco, doctorat et cabinet de conseil. Il y avait bien des petits pas de côté, déjà l'envie tenace de ne pas passer ma vie à travailler, l'angoisse de me retrouver à vendre des bouteilles de coca dans les supermarchés et l'ouverture fugace d'une galerie d'art décalée. Mais globalement, j'étais à fond dans le syndrome de la bonne élève. Et puis à un moment donné, c'est devenu juste impossible de vendre mes journées au CAC 40, de croiser des SDF couchés dans les rues de Paris le long de vitrines regorgeant de gadgets inutiles, de supporter cette indécence moderne qui fait se côtoyer yachts de luxe et bidonvilles. C'est à ce moment-là que j'ai croisé la route de personnes qui dénonçaient la triple aliénation du dogme de la croissance, de la société de consommation et de la valeur travail à Utopia. C'était en 2005, je crois. Depuis, j'ai démissionné, me suis occupée des écoles de la ville des Lilas. J'ai déménagé au pied du Vercors et me suis engagée en politique. J'ai passé 10 ans au parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon à développer le projet éco-socialiste et l'internationalisme, effectué 2 mandats d'élu régional, dont un face à Vauquier, puis quitté la politique institutionnelle et les partis. Aujourd'hui, je milite ailleurs et j'écris. Je suis loin d'être exemplaire, mais j'ai l'impression d'en être à ma 6e vie. Bifurquer, si je devais résumer, pour moi, c'est éprouver sincèrement, sans se raidir, ce moment singulier où le cerveau rencontre les points. Quelle que soit la manière dont ça se manifeste ensuite, dans ses choix ou malheureusement parce qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes conditions d'existence, son absence de choix, c'est ce moment de discernement, de lucidité, où on ressent au fond de soi qu'on ne peut plus continuer à vivre comme si on ne savait pas.
Dans une tribune publiée dans Libération et intitulée pallier les envies de fuite désordonnées. Tu évoques également la solastalgie, soit la souffrance causée par la crise climatique, un terme très utilisé aujourd'hui, souvent de pair avec éco-anxiété. Dans une récente prise de parole, Frédéric Lordon s'en est pris à cette notion de façon assez virulente, en disant « ne soyez pas éco-anxieux, soyez éco-vénère ». Enfin, ça, c'est reformulé par Ujul, mais on comprend l'idée. Qu'est-ce que cette critique t'évoque ?
Eh bien, Frédéric Lordon a le chic pour sortir des tribunes bien troussées et montrer, en mettant les cyniques et les rieurs de son côté, combien il est malin. Et il l'est. Mais quand il parle de merde psychosociétale qui ne veut rien dire, autour de moi, je vois des gamins qui font des crises d'angoisse dès que le ciel est couvert, des ados qui se retrouvent en HP, des jeunes qui ne veulent plus faire d'enfants et des adultes complètement largués. S'en prendre à la notion des foules peut-être, hélas, ça ne fait pas disparaître le problème. Et je ne crois pas que ce soit dépolitisé que de s'intéresser aux individus, aux émotions et à ce qu'elles génèrent. Ce n'est ni mièvre ni inutile, loin de là. Et le monde politique, comme certains cercles intellectuels, serait bien avisé de s'en préoccuper. Et puis non, vraiment, s'il s'agit d'une injonction à cesser de souffrir, ce serait indécent. Ne pas être angoissé aujourd'hui quand il y a toutes les raisons de l'être relève soit de la méthode Coué, soit de l'insanité. Alors oui, évidemment, il a raison de dénoncer le fait que les causes, comme ce qu'il conviendrait de faire, restent dans le brouillard. Mais il dégomme tellement, de la décroissance aux ZAD, en passant par le vivant, c'est lassant de voir des gens brillants passer leur temps à dézinguer tout ce qui émerge, plutôt que de s'y accrocher et de tirer sur les fils pour les tordre, les tisser et les vertébrer. Quoi, la collapsologie, le tri des déchets et l'éco-anxiété, ce n'est pas assez révolutionnaire, pas assez politique ? Ça ne va pas renverser le capitalisme, mais on le sait, ça fait des années qu'on s'évertue à politiser ce merdier. Pardon, vraiment, j'adorerais qu'on soit en période pré-insurrectionnelle, avec des gens vénères de tous côtés, en train de s'organiser collectivement, mais ce n'est pas la réalité. Majoritairement, rien ne change, sauf une détresse croissante, et avec l'été qu'on vient de passer, ça ne va pas s'arranger. D'ailleurs, appeler à devenir furieux n'est pas forcément judicieux, vu la poudrière dans laquelle on est. C'est un souci sincère, je ne vois pas de sursaut révolutionnaire, pas de mouvements sociaux d'ampleur, peu de collectifs organisés pour politiser et canaliser cette colère. La plupart des gens ne savent pas quoi en faire de ces envies de tout péter, de ces emportements légitimes, ni comment se prémunir des pénuries qui se profilent. Faute des débouchés, le risque est fort de se tromper d'ennemis et de se dresser les uns contre les autres. Je me méfie du ressentiment qui s'installe, des phénomènes de repli et de bouc émissaire, un scénario très périlleux en ce moment.
Tu évoques souvent un imaginaire de la fuite, de la « cabane », entre guillemets, du fait de se retirer, de se couper des réseaux. Ce sur quoi tu voulais travailler dans ton dernier roman, « La Sauvagière », qui vient de paraître aux éditions d'Alva ?
Disons que c'est ce qui est sorti en tout cas. Je souris parce qu'il y a écrit qu'il faut sourire. Un roman peut aussi souligner d'une manière autre tout ce que le système broie et permet d'explorer les marges de la normalité, ce délire accepté de notre relation au monde, selon Juan José Saer. Et puis tout simplement, une sauvagière, c'est un lieu où l'on se retire pour se mettre à l'abri des contacts humains. Et je crois que j'en avais besoin.
Comment faire pour que la désertion devienne un acte politique et non un simple pas de côté ? Ou, pour le formuler autrement, pour qu'elle devienne sécession ? Demandes-tu dans cette tribune. En guise d'élément de réponse, tu invoques la tradition libertaire, donc anarchiste. Peux-tu préciser ce que tu entends par là, notamment à travers ces deux notions libertaires que sont, selon toi, le refus de parvenir et le cesser de nuire ? Comment cela peut-il nous aider à inventer un « en dehors » du salariat capitaliste ?
Ces notions, le refus de parvenir, le cesser de nuire et la dignité du présent, étaient au cœur de mon essai « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », rédigé à un moment où je quittais la France insoumise et m'interrogeais beaucoup sur le militantisme, ce qu'on y cherche, ce qu'on y accomplit et ce qu'on y perd. Je m'intéresse beaucoup aussi au confédéralisme démocratique et à ce qui se passe au nord-est de la Syrie, au Rojava. En France, c'est aujourd'hui dans les réseaux autonomes, paysans et technocratiques que je trouve le plus de dynamisme, d'élan et de pertinence. Technocritique, bien joué, merci. Que je trouve le plus de dynamisme, d'élan et de pertinence, aussi bien dans la réflexion que dans l'action. Là que se construisent, à mon sens, les remparts les plus costauds à la destruction des écosystèmes, les plus lucides en termes de résistance au capitalisme, les plus opérants en termes de préfiguration de comment nous pourrions vivre, et enfin de batailles culturelles vives, queer dans l'âme, c'est-à-dire bizarres, déviantes, inadaptées aux normes sociales que l'on veut défaire. In fine, après avoir milité dans pas mal d'espaces différents, en questionnant régulièrement leur pertinence et en m'interrogeant sur les stratégies possibles pour actionner le frein d'urgence, comme l'écrit Walter Benjamin, il me semble de plus en plus que c'est en s'affranchissant du système qu'on pourra le mieux le combattre, pas en restant dedans ni en jouant selon ses règles, pas en utilisant des médias, ses ressorts, son indignité et son argent. C'est quasiment impossible à réaliser de s'extraire tant on est englué dedans. Et pourtant, il y en a qui s'y essayent, réfléchissent autrement la question de la subsistance et de la solidarité, inventent des formes d'autonomie collective, politique et matérielle. Ce n'est pas parfait, qui l'est ? Mais de manière réaliste et honnête, si je croise tous les éléments en ma possession et que je regarde en face ce qui arrive, ça me paraît être l'outil politique le plus adapté pour créer les conditions permettant de vivre, comme je le dis souvent de manière un peu provocatrice, sans État, sans pétrole et sans électricité, et le plus dignement possible. Parce que désormais, rien ne permet de penser qu'on n'y va pas tout droit, ni qu'on y est prêt.
Merci, l'imitation était parfaite, c'est incroyable. Ça.
On aurait vraiment dit elle, hein. Franchement, hein, chapeau.
Dit elle,
et en plus, j'ai même pas travaillé.
Puisqu'on est sur le même thème, là, je trouve ça très intéressant, l'idée, donc ce qu'elle résume à la fin, comme elle le dit un peu de façon provocatrice, sans État, sans pétrole et sans électricité. Mais encore une fois, c'est souvent des choses à long terme. Même si c'est posé comme quelque chose de, vers lequel on doit tendre, il y a tellement de contraintes aujourd'hui qui pèsent sur les individus. Pour que ça change les choses dans un court terme, ça me semble encore une utopie, mais c'est bien, il en faut beaucoup des utopies pour avancer, c'est très bien. Mais ça me semble anecdotique aujourd'hui. On connaît des gens qui le font, de tout quitter, d'aller vivre à la campagne et tout ça, mais il y a un endroit où ça reste encore rare, et je pense que ça pourrait le rester rare en fait. Si je pense à moi, par exemple, j'ai pas envie de vivre à la campagne et de cultiver mes tomates. En vrai, ça m'intéresse pas du tout. Après, j'adore ça, je trouve que c'est très important. C'est un peu con, mais c'est vrai que les tomates que je mange, ben, j'aime bien qu'elles viennent d'un potager, qu'elles aient pas poussé dans l'air en Hollande ou je sais pas où. Ben, j'espère que d'autres le fassent, voilà, vraiment, pour finalement en profiter quelque part. Mais aujourd'hui, moi, ça, je ne le ferai pas, quoi. Voilà, j'ai habité 5 ans à Coaraz, ça m'a suffi, en termes de campagne. J'ai compris, voilà, je vois bien, Thierry habite toujours à la campagne, je vais chez lui le week-end, mais il y a un endroit où ça ne m'intéresse pas, je me rends bien. Même si, par confort, j'aimerais vivre là où il vit, je sais que je me reposerai sur lui, en fait. Parce que c'est un vrai travail que de vivre à la campagne et que de s'occuper d'un terrain qu'on a, entretenir le terrain, couper les arbres, débroussailler, arroser. Là, il y a un truc qui est cassé, il faut réparer, machin. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, c'est pour ça aussi que, honnêtement, je me dis, bah, va pas te reposer sur lui juste parce que c'est sympa de vivre à la campagne. Non, voilà, assume, je prends ma part de responsabilité. Je ne remplirai pas cette charge de travail-là, donc je n'attends pas qu'il le fasse. Mais aujourd'hui, concrètement, moi, je ne le ferai pas. Quand je lis un témoignage comme celui-là, je suis très heureuse de voir qu'il y ait des gens qui font ça. Mais voilà, comme la grande démission, il y a un endroit où je me dis concrètement quand ou comment, à quel niveau c'est possible qu'on arrive à une échelle qui soit assez satisfaisante pour changer quelque chose. Quand est-ce que ça arrive? Comment? Je suis un peu dubitative en fait, même si ça me fait rêver et que ça fait que du coup je retrouve le sourire et tout ça, mais...
Quand ils sont pleins de micro-démissions, de plus ou moins grandes démissions, c'est comme ça qu'on arrivera à faire système dans la démission du système capitaliste, en fait. Mais c'est pas forcément dans la romantisation du grand départ, c'est peut-être aussi dans des petites actions quotidiennes qui font que, de fil en aiguille, on arrive à... Mais sauf qu'en fait, si t'as des millions de prolos qui décident en même temps de faire une micro-démission, ça fait une grosse démission.
Enfin, ça prend un temps infini et je suis même pas sûre qu'en faisant juste comme ça, on y arrive, en fait. On le voit sur toutes les autres questions, la question du racisme, la question des violences faites aux femmes. Je veux dire, à un moment, on peut tous se saisir de ces questions à une échelle individuelle, faire ce qu'on peut à notre échelle, autour de soi, à une échelle micro. Toutes ces actions à l'échelle individuelle, jusque-là, n'ont rien changé, en tout cas de manière assez, on pourrait dire, un minimum satisfaisante, n'ont rien changé à ce qui se passe à l'échelle plus globale.
C'est souvent d'ailleurs la réponse assez classique qu'on oppose à ça, c'est faisons des choses ensemble, quoi. Et créons des contre-systèmes, des alternatives, toutes ces constellations-là de gens qui auront quitté leur boulot. Et, Et moi, j'aime bien quand même ce mot de désertion en contradiction peut-être avec la grève, justement, puisque la grève, il y avait quelque chose de temporaire, c'est-à-dire une fois qu'on a eu ce qu'on demandait, ben on revient au turbin et en fait, on n'a pas enlevé le pouvoir à celui qui nous employait. Là, avec la désertion, il y a quand même vraiment un truc où ils ne vont pas aller nous chercher jusque chez nous, que peut le capital contre celui qui ne veut pas, quoi. Donc je trouve qu'il y a quand même un truc assez puissant là-dedans, notamment le fait que maintenant, des aspirants à... que ce soit des diplômés qui ont été formés par l'argent collectif, etc., qui sont des aspirants à la bourgeoisie, au modèle dominant, refusent avant même d'y avoir mis un pied. C'est-à-dire que sur ça aussi, il y a quand même des petites victoires où on se dit la force aussi mentale que pouvait avoir le capital avec tout le confort qui était accolé et le prestige social, et ben, y a des gens qui le refusent avant même d'y avoir goûté. Il y a quand même un truc qui est assez encourageant là-dedans. Alors peut-être, effectivement, c'est toujours un peu petit, tout ça, hein, toujours, mais... Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi.
Du coup, je pense, enfin voilà, dans les prises de conscience individuelles et tout, à un moment donné, on n'a jamais conscience de ce qu'on peut générer en fait en s'agrégeant et en menant des actions qui peuvent paraître aussi futiles par moment. Donc voilà, agrégeons des majorités.
Je passe le micro à Vincent et je rappelle la notion de minorité active.
Il y a ce côté-là d'être un peu des semeurs et semeuses de graines. Et sur la question du travail, sur la question de la démission, sur la question d'arrêter un travail. Forcément, quand tu es famille monoparentale et que tu gagnes à peine le SMIC en étant caissière à Carrefour, tu vas pas faire le big quitting. Par contre, tu peux nourrir, garder cette idée et tu peux participer collectivement et chacun, chacune d'entre nous peut participer au collectif. Et des exemples comme ça qui sont inspirants en fait, il faut qu'on se garde de les prendre comme culpabilisants. Parce qu'aujourd'hui, sur une grande radio nationale, tu as la journée de la décroissance, de la sobriété, et que tu as la pub pour les voitures, et qu'à la fin de la pub, attention pour vos déplacements courts, préférez le bus. On vit dans ce monde-là, dans ce monde qui est organisé pour nous rendre fous et folles. T'as les pubs McDo et ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. C'est un petit peu des exemples de prise de conscience qui doivent nous aider et surtout pas nous culpabiliser, surtout pas nous... La société actuellement nous maintient là-dedans, nous maintient dans la culpabilisation individuelle plutôt que dans la construction collective. Il y a des moyens de subvertir ce système et je pense que c'est ça que ça doit nous inspirer.
Je pense qu'on a tous un choix à se questionner sur ce pourquoi on est là, comment on fait les choses, comment on vit, quel est notre bilan à chacun, à la fois dans la relation à l'autre et la relation à la planète, et que ce choix qu'elle fait, elle a réussi à bien le vivre, mais je pense qu'il y a des milliers de personnes qui le font dans des conditions beaucoup plus difficiles, et à travers nous, nos balades avec Thierry, on a rencontré des lieux où les gens vivent, quoi. Voilà, ils vivent. Alors, on ne sait pas si ce sont des anciens profs ou des anciens informaticiens ou des anciens branleurs, ou voire même un mélange des trois. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits où ça se passe. Et justement, c'est très intéressant de ne pas savoir la formation initiale des gens, ne pas savoir d'où ils viennent et de voir que ben, globalement, il y a des expériences qui fonctionnent. C'est pas facile, on est dans une société où en plus, comme je suis pratiquement l'un des plus vieux ici, on nous a maintenus dans une espèce d'apathie et on est en grande partie ma génération responsable de la merde dans laquelle se trouve la planète aujourd'hui. Donc il y a des possibilités de dire non, quoi, et d'envisager les choses autrement. C'est plus ou moins facile, mais je pense que ce à quoi participe le Mouet, et c'est pour ça que je suis là, c'est justement de dire voilà, c'est possible.
Ouais, alors merci beaucoup ta génération, parce que c'est vrai que vous avez bien foutu la merde sans conscience, quoi. Enfin bon, pour la majeure partie d'entre vous, hein. Et sinon, en fait, les désertions fécondes, moi je le vois pas comme une philosophie de vie permanente, parce qu'il faut pas oublier que le capitalisme, c'est quand même la production égale le capital multiplié par le travail. Ce qu'on a prouvé avec Mouet, c'est qu'en se libérant de temps en temps, parce que certains d'entre nous retournons vers le salariat, on hésite, c'est dur parce qu'on a une pression de tout le monde, va travailler, sinon t'es personne. Et puis on se relibère du temps de vie pour le consacrer à Mouet. Mouet est une désertion féconde en fait. ça n'aurait jamais existé sans cette volonté, cette prise de risque. C'est clair que tu te fous dans la merde quand t'arrêtes de travailler, en fait.
Il y a plein de gens qui sont comme ça, en fait. Il y a plein de prolos qui décident juste de... Plutôt que de subir leur pauvreté, décident d'en faire quelque chose. Moi, bah non, enfin, c'est au final, plutôt que de subir ma putain de pauvreté, d'avoir rien, de dire, ok, je vais assumer ce rien et je vais en faire quelque chose de prolifique et de digne. Et ça existe, en fait. Vouloir vivre hors des cadres capitalistes, c'est pas un délire de bobo bourgeois. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent et qui décident de se barrer. Nous aussi, on doit réagir là-dessus parce qu'au final, c'est une victoire de l'extrême droite, en fait. Parce que dès le moment où tu dis, voilà, je suis alternatif au capitalisme, t'es là, genre, ah, bobo de merde. Et c'est une défaite idéologique qu'on a subie, en fait. Ça, on n'arrive pas à assumer ou à faire savoir le fait que c'est possible d'être prolo et de pas vouloir aller au supermarché, de pas vouloir, enfin, de pas avoir cette vie de merde qu'on nous promet. C'est possible, en fait. Tu peux grandir dans la pauvreté et vouloir y rester, mais de façon digne. Je demande pas accéder à la richesse. Par contre, je veux que mes besoins primaires soient respectés et je veux qu'on me respecte.
J'essaie régulièrement de le faire, et notamment pendant quelques années, là, j'ai pas si mal réussi. Je faisais un peu ce que je voulais, comme je voulais. Sauf qu'à un moment donné, la fête est finie et que c'est compliqué, le Covid passe par là, tout ça, machin. Bon, aujourd'hui, je rebosse beaucoup. Alors, je bosse, j'ai la chance de bosser dans les trucs que j'aime. Hein. Sauf que je bosse vraiment beaucoup pour pouvoir rattraper un peu la fête est finie. Et c'est compliqué. Voilà, j'ai deux gosses. Il y en a une qui a 6 ans. Quand elle est née, j'ai réussi à prendre le temps pour elle et c'était génial. Aujourd'hui, j'en ai un deuxième qui a 7 mois et j'arrive pas à prendre le même temps et c'est vraiment frustrant. Voilà, même si c'est dans des boulots que j'aime, d'être vraiment aliéné par ce truc-là. Je me bouche un peu le nez, tu vois, je mets la tête sous l'eau et je me dis c'est un moment, et puis après je me repayerai un moment de liberté. Voilà, il faut que je me réinvente complètement et je suis pas sûr de savoir faire.
Ouais, moi je prends le truc en cours aussi, mais cette capacité à s'émanciper, quelle que soit la forme qu'elle prend, elle n'est pas socialement distribuée de façon égalitaire, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut trouver des exemples de gens qui, dans tous les milieux, etc. Mais il me semble, en vous écoutant, parce que quand même la vraie question, peut-être aussi qu'il faut qu'on pense et qu'on la dévie pas, quoi, c'est peut-être que effectivement comment on arrive à passer de ces micro désertions ou je ne sais quoi, ou de ces bifurcations, je trouve le terme me plaît bien, en tout cas bifurcation, ça me parle en ce moment vraiment. Donc c'est ça la question, quoi, c'est en fait comment on arrive à ce que ça puisse s'étendre, par quels moyens collectifs on réussit à mettre un petit peu plus d'égalité dans cette capacité à bifurquer, quoi, et que ça fasse sens.
L'artiste qui est présent ici ce soir, Bohème, va pouvoir répondre peut-être ensuite.
Bravo !
Bravo !
Ouais, voilà, plutôt peut-être on fait une pause.
Boire des coups à prix libre, je rappelle que dans prix libre, il y a prix.
Et après, effectivement, il y aura Edwige qui fera du slam et peut-être...
Alors c'est la pause, alors c'est la deuxième pause.
Eh oui, c'est deux pauses toujours.
Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique à la deuxième pause, alors ça ?
Comment ça, qu'est-ce qu'on va mettre comme musique ?
Mais qu'est-ce qu'on envoie comme musique pour nos auditoristes, là, qui sont en attente complète de la pause ?
Ah ben c'est le suspense.
C'est le suspense, très bien. Pause.
Travaillez plus, gagnez plus, j'aurai moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas ouais, travailler du tout. Moi, ce que j'aime, c'est glander. Quand je glande, faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, soir, je me fume un pétard. J'aime pas travailler, patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça vous le sudait.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si je dois redoubler l'effort, alors directement je m'endors. Je ne travaillerai jamais debout, pensez pas me faire bosser assis, encore moins faire taper à genoux. Je ne travaillerai plus du tout. Finalement, je ne travaille pas, papa. Je ne cherche même pas d'emploi. Et je reste à vivre. sans préoccuper, c'est sans préoccuper, c'est sans préoccuper.
C'est le joli mois de mai.
C'est le joli mois de mai.
Qu'est-ce qui se passe alors là, Edwin?
Là, il y a Edwige et Jules qui répètent pour la partie concert, parce que dans Causerie, apéro, concert, il y a concert.
Ah, c'est ça que ça veut dire.
C'est ça, oui, il y a des gens qui vont jouer de la musique et tout, ouais, le CAC, ouais.
Donc là, on a fini notre partie intellectuelle cérébrale.
Voilà, on a fait notre travail. On s'est donné le droit de s'amuser. Voilà, c'est comme ça que ça marche,
okay, d'accord.
Le système.
Ah, ça marche comme ça. D'accord.
D'abord le labeur, ouais, ensuite la récompense.
Je rentre parce qu'ils m'ont fatigué.
Allez, c'est parti, on fait le concert.
Allez, d'accord, c'est la partie concert alors, messieurs, dames. Ça va si je suis assis là?
Oh, mais j'adore quand t'es assis là.
Ah ben.
Ça me rassure même. Oh. Mon travail à moi, c'est l'amour. Alors en effet, ça donne pas toujours un emploi, mais parfois.
On peut l'applaudir quand même. Ouais, 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 ouais.
Je vais donc vous amener dans mon monde à moi, avec ses joies et ses peines. Les gens qui disent que c'était mieux avant sont les enfants de ceux qui disent que c'était mieux avant. Notre jeunesse aime le luxe, est grossière et mal élevée, ne se soucie pas de l'autorité et n'a aucun respect pour les anciens. Les enfants d'aujourd'hui sont des tyrans. Cette citation est de Socrate. De nos jours, les enfants croient être égaux à leur père et n'ont aucun respect pour leurs parents. Ce qu'ils veulent, c'est être libres. Et au nom de la liberté et de l'égalité, on proclame la liberté des sexes. Cette citation est de Platon. Cette jeunesse n'est pas en mesure de préserver notre culture. Cette citation a récemment été découverte dans une carrière d'argile dans les ruines de Babylone et aurait plus de 3000 ans. Mais que dire? Eh ben moi, cette jeunesse, je veux lui rendre hommage et m'excuser pour tous ces dommages. Cette jeunesse qui nous paraît feignante, mais qui dans le fond ne perd pas de temps et tente. Jeunesse de mon pays, c'est pas vous. Je t'en prie, continue, crie, arme-toi, débat-toi, cultive-toi. À toi de crier fort que la jeunesse emmerde le Rassemblement National. Que la jeunesse identitaire n'est pas une chose normale. Allez jeunesse, bats-toi. Contre ceux qui votent extrême. Contre ceux qui vénèrent Zemmour. Qui ne savent pas dire je t'aime. Allez jeunesse, continue, mélange-toi, fabrique ton arc-en-ciel. Je t'en voudrais pas si tu nous prends pas pour modèle. À toi de nous engueuler pour le monde qu'on t'a laissé. Car t'as raison, non. On s'est pas fait baiser par l'arrivée des immigrés. À toi jeunesse de montrer à tous ces vieux clampins que garder son âme d'enfant, c'est bien. À toi de nous élever, de nous éduquer, de nous méduser. À toi de nous faire comprendre qu'on est dépassé et que tu prends le relais. À toi, jeunesse, de construire ton univers, ton empire, ta vie dans laquelle tu vas vieillir. À toi, jeunesse, devant laquelle je m'abaisse. Nos combats, nos valeurs, nos colères, je te les laisse. Tu es plus forte que nous parce que tu as encore l'ardeur, toi, avec toute ma confiance. Parce qu'un jour, tu verras ce texte. C'est toi qui peut-être le partageras. Alors vas-y, jeunesse. Arme-toi, crie, cultive-toi, débat-toi. On peut juger un pays à la manière dont ces vieux ils traitent. Nous, tout ce qu'on a su faire, c'est les mettre en maison de retraite. On peut juger un pays à la manière dont on te traite, toi. Alors vas-y, jeunesse. Arme-toi, crie, cultive-toi, débat-toi. Parce que c'est sûr, ta noblesse, elle passe par ça.
Ouais,
le joli mois de mouet.
Le joli mois de mouet, c'est sur YouTube Hercule.
YouTube Hercule, faut y échapper jamais.